Hello tout le monde, vous êtes bien sur les ondes de Radio Campus Bordeaux et aujourd'hui on est ensemble pendant une heure pour une toute nouvelle édition de l'émission phare du Master Communication et Génération, On va se gêner. Une nouvelle édition 100% féminine accompagnée de Jade.
Hello hello.
De Samia.
Salut.
Et de Coralie, salut les filles.
Salut.
Vous allez bien?
Ouais.
Super.
Bon alors, vous ne nous entendez pas, vous ne nous sentez pas, vous ne nous touchez pas, mais en revanche, vous nous entendez bien. Après avoir été dans tous leurs états l'année dernière, cette année, les générations sont dans tous les sens. Et oui, pendant une heure, nous allons aborder notre thème préféré, les générations, par le prisme de nos cinq sens. Vous l'aurez donc compris, le goût, l'odorat, la vue, le toucher et l'ouïe. Et ne tardons pas plus que cela. Commençons tout de suite avec toi, Jade, et une chronique plutôt gourmande, il me semble. Dis-nous tout.
Et oui, Juliette, aujourd'hui, nous sommes plus que jamais hyper connectés. Les réseaux sociaux font partie de notre quotidien et nous suivent dans nos moindres mouvements, y compris à table. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Voilà notre nouveau credo. Que le premier n'ayant jamais sorti son téléphone portable pour immortaliser son repas s'annonce. Personne ?
Bon, ok, j'avoue.
Voilà, bien sûr, nous l'avons tous fait au moins une fois dans notre vie. C'est quasiment devenu une habitude, une norme un petit peu intégrée par tous.
Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, prendre une photo de son plat et le partager sur les réseaux sociaux, ça permet de se mettre en scène et puis de se positionner socialement parlant.
Oui, et puis je rajouterais même que ces plateformes, c'est une mise en scène perpétuelle de ce qu'on fait au quotidien et du coup de ce que l'on mange.
C'est exactement ça, et toujours dans l'objectif d'obtenir le maximum de likes et de commentaires. C'est un peu ce qui définit l'ampleur de notre popularité numérique.
Oui, et puis on enjolive un peu le quotidien avec des filtres et l'image que nous renvoyons, qui est d'ailleurs, on le sait tous, bien souvent plus importante et plus belle que la réalité. Hein.
C'est très juste, Juliette, et en parlant d'enjoliver la réalité, vous n'avez certainement pas pu échapper au phénomène qui fait monter la chaleur et attiser vos papilles.
Le food porn.
Et oui, pour ceux qui seraient passés à côté, le food porn, c'est une tendance culinaire qui consiste à photographier de la nourriture particulièrement appétissante et à partager ces images sur des plateformes sociales. Des milliers de photos en lien avec la thématique sont publiées chaque jour sur Internet. C'est un engouement général qui semble être sans fin et à consommer sans modération. Avant de devenir un phénomène sur Internet, la notion food porn est apparue pour la première fois aux États-Unis en 1984. Et en fait, ça désignait la mise en scène de la nourriture dans les magazines, dans le but de provoquer toujours ce désir d'une manière extrêmement magnifiée et esthétique.
On est chaud sur le plateau.
Et c'est vrai qu'on les voit absolument partout sur les réseaux sociaux. Hein.
Et oui, Juliette, le thème de la cuisine est l'un des sujets les plus populaires sur les plateformes sociales. Amateurs et professionnels s'y retrouvent pour partager du contenu. Instagram, Facebook, Pinterest, YouTube, on ne compte plus le nombre de réseaux dédiés à la cuisine où l'on retrouve de magnifiques photos d'avocado toast ou de vidéos tuto mac and cheese, supplément bacon, extra cheddar et double béchamel.
Ouais, c'est vrai qu'il y a des gens qui gagnent leur vie en mangeant devant la caméra. On appelle ça, je crois que c'était les mukbang, qui est une contraction d'un mot coréen. Mais je pense que Coralie saura plus nous expliquer.
Ouais, en fait, mukbang, ça vient du mot, des mots manger et diffuser. Donc, littéralement, c'est tu diffuses ta bouffe via un écran. Et d'ailleurs, ça va être réglementé tout prochainement par le gouvernement coréen pour faire attention au poids et aux problèmes d'obésité dans le pays.
Mais incroyable cette anecdote, je ne savais pas du tout, merci. Pour en revenir à notre cuisine et les réseaux, c'est vrai qu'en ce moment, on ne compte plus le nombre de blogs et de sites internet consacrés à la gastronomie et leur existence ne date pas d'hier.
C'est vrai que Marmiton, ça existe, je pense, depuis un certain temps. Moi, ça fait un bail que je l'ai sur mon téléphone, mais j'y vais plus depuis,
C'est ça, en tout cas les foodies l'ont je pense et ils vont régulièrement et aujourd'hui ces fameux foodies ont l'embarras du choix pour trouver de quoi se mettre sous la dent.
Super jeu de mots, Jade.
pour pas perdre nos auditeurs, est-ce que tu pourrais juste nous définir ce que c'est les foodies, Jade ?
Bien sûr.
C'est certainement pas moi, parce que ça fait longtemps que je passe sur Marmiton.
Alors, toi, tu es une mauvaise foodies, Samia. Les foodies, ou cuisomanes en français, ce sont ces aficionados de la nourriture et des boissons. Bref, de bons vivants passionnés de bonne bouffe, quoi.
Je crois qu'on est tous un peu foodies, au fond, bah, sauf Samia, mais je ne t'inviterai pas à mon repas ce soir.
C'est vrai, Coralie, et moi la première. En même temps, la vie n'aurait pas de goût sans bonne bouffe. Et d'ailleurs, ce qu'on ne sait pas, c'est que ce fameux proverbe « vivre d'amour et d'eau fraîche », en fait, bah, il est inachevé. Et ouais, celui qui l'a écrite manquait d'encre pour la finir. En fait, ce qu'il a vraiment voulu dire, c'est « vivre d'amour et d'eau fraîche ». Et de pizza, 4 fromages.
Ouais. Faut avouer que cette panne d'encre a permis de rendre cette expression bien plus romantique.
Ah ouais, je te l'accorde volontiers. Et ce qu'on peut avouer aussi, c'est que toutes ces plateformes ont peu à peu remplacé les livres de cuisine de nos grands-mères. Sur cette multitude de sites, on y échange des recettes, on partage des astuces. Et après avoir testé le plat, on y donne son avis. Critique gastronomique est désormais à portée de tous. Ces opinions pointues, auparavant réservées aux professionnels du domaine, sont maintenant accessibles pour tout internaute lambda. Que ce soit sur nos interfaces préférées ou directement via des applications entièrement dédiées à la notation de ces restaurants. Cela va même plus loin, puisque les gens privilégient de plus en plus l'avis et les conseils de leurs pairs plutôt que les discours des marques qui ne peuvent plus être aujourd'hui unilatérales.
Et Jade, pour vérifier les pratiques alimentaires de la génération Y, tu es partie à la rencontre des étudiants bordelais, c'est ça ?
Voilà, exactement. Donc la génération Y ou les étudiants plutôt de façon générale m'ont donné donc, leur avis sur leur pratique des réseaux sociaux. Et ils m'ont dit si ils avaient une influence sur leur manière de consommer. Donc on écoute de suite leur avis.
Donc tout d'abord, j'essaie de décider avec moi-même ce que je veux manger, quel type de cuisine, quelle culture, quelle origine. Et dans un second temps, donc, je vais faire une petite étude de marché de ce qu'il y a donc, par le biais de sites comme TripAdvisor ou lafourchette.com. Mais alors attention, hein, je ne me fie pas qu'au restaurant, je prime dans un premier lieu aussi le bouche à oreille.
Non, en général, non. C'est parce que c'est des restaurants que je connais, en général. Mais sinon, de temps en temps, ça m'arrive d'aller sur le site internet du resto, juste pour me donner une idée. Mais pas très souvent.
Ah oui, en dessous de 4 étoiles sur 5, c'est pas la peine.
C'est pas quelque chose qui m'influe, j'ai pas ce réflexe-là. C'est pas un réflexe que j'ai des amis, c'est leur premier réflexe d'aller voir sur TripAdvisor ou des sites qui référencent les restaurants. Avec un système de notation, j'ai pas ce réflexe là. Quand je vais au resto, c'est soit des restos que je connais, soit des restos que l'on m'a conseillé. C'est plus dans une discussion avec des amis où on va me conseiller un restaurant et moi je suis pas influencé, je ne m'y suis jamais rendu, je sais pas comment ça fonctionne et à la sortie d'un resto, encore moins je vais pas aller noter le restaurant. Je vois pas l'intérêt pour moi d'aller noter le restaurant si c'était mauvais ou pas, et je vais en parler plutôt à mes proches, à mon entourage, le conseiller un restaurant ou pas.
Moi j'ai un peu un problème d'addiction même avec ça, où maintenant j'ai plus le droit d'y aller quand je dois choisir un resto avec mon copain parce qu'il trouve que je passe trop de temps dessus. Mais en fait moi je trouve ça vachement, parce que du coup comme j'adore aller au resto, je trouve ça ultra décevant d'aller dans un resto et au final que ce soit pas bien. Enfin tu mets quand même de l'argent, c'est un budget, et du coup y aller sans te renseigner avant, c'est prendre le risque que ce soit nul, alors que t'as plein de sites qui sont ultra bien faits, où t'as les avis, t'as les photos, et du coup t'es sûr que t'investis bien ton argent. Enfin, de la même manière que tu ferais ça avec n'importe quel autre objet, enfin je sais pas, t'achètes des chaussures, un truc, tu regardes quand même un minimum les avis pour être sûr que tu vas pas acheter de la merde. La bouffe c'est pareil, et du coup je trouve que c'est super important de pouvoir avoir des avis, des photos, etc. pour bien investir ton argent et bien manger après.
En fait, je l'ai jamais fait, mais si jamais je tombe un jour sur un resto que j'estime vraiment pas bon, avec un service vraiment mauvais, je le ferai. Mais je trouve que c'est un système un peu traître de mettre cette notation, et un peu lâche. Si on n'aime pas le resto, on le dit au propriétaire ou on le fait comprendre au serveur pour qu'il s'améliore. Mais mettre une mauvaise étoile, c'est juste ruiner un resto. Je trouve un système un peu... Ouais. un peu limite.
Ce que je fais, c'est que je conseille les sites de notation que moi j'aime bien aux gens qui me demandent. Genre, quand j'ai un resto à conseiller, je leur dis bah, regarde ce site trop bien, tu verras, blablabla. Mais moi, laisser un avis uniquement pour gagner des points et avoir des réductions.
On remercie Pablo, Anna, Zoé et Lucas d'avoir répondu à nos questions. Mais vous, les filles, vous en pensez quoi du coup de la notation dans les restaurants ?
Moi, je pense que c'est un peu hypocrite. Enfin, je dirais pas que c'est hypocrite, mais c'est piégeux comme truc. Surtout que je me rappelle avoir vu un reportage fait par le site Vice. Je sais pas si vous connaissez. Mm-hmm. Qui a été fait en fait par un gars qui a créé un faux restaurant dans sa propre maison, ou dirais-je sa cabane. Et du coup, il l'a hissé. Enfin, son restaurant a été hissé au top 1, enfin, premier. Mm-hmm. Du classement TripAdvisor, alors qu'il leur donnait...
J'en ai entendu parler, c'était à Londres, il me semble. Mmh. Ouais.
Alors que pendant longtemps, il a reçu aucun client, et puis après, il a fini par les recevoir pour jouer le truc, et il leur a donné des plats surgelés, ils ont continué à le noter.
Ah, c'est ouf. Bah, le mec est très très fort après, hein.
Ouais,
franchement.
Vraiment,
c'est incroyable.
Mais ouais. Du coup, ça prouve que... qu'on peut pas vraiment faire confiance.
Faire confiance, ouais. Et du coup, moi, ça m'intéresse pas du tout. Bah, déjà, je fais pas confiance... aux notes comme ça généralement, un peu comme Pablo. Et puis prendre ton temps pendant ton repas, prendre des photos, déjà c'est long. Et puis s'il faut noter par derrière, en fait ça coupe l'appétit, et moi ça m'intéresse pas du tout, je fais pas du tout ça.
Oui, et puis surtout, est-ce que beau veut-il dire bon? Parce que au final, on prend nos plats qui nous paraissent magnifiques, mais après en bouche, c'est pas forcément le cas que ce soit une qualité un peu exceptionnelle. On peut vite être déçu, quoi. Et ça me fait penser, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est une chaîne de restaurants internationale qui s'appelle Dans le Noir. En France, ça se passe à Paris et à Nantes maintenant. Et comme son nom l'indique, en fait, c'est une chaîne où on peut venir dîner dans le noir, les yeux fermés, les yeux bandés. Ouais. Et c'est un super principe en fait, et enfin c'est un super concept.
Ouais, j'adore.
Et du coup, en perdant la vue, ça permet donc de décupler tous nos autres sens, et notamment certes le goût, mais aussi l'odorat. C'est une pratique qui se développe du coup de plus en plus un peu partout en France. Certains restaurants proposent ce concept, par exemple le temps d'une soirée, je sais pas vous, mais enfin moi personnellement, c'est vraiment une expérience que j'ai envie de faire. Hein.
Ah mais complètement, mais au-delà d'un restaurant qui propose ça le temps d'une soirée, enfin même nous à titre personnel, on peut clairement reproduire cette expérience chez nous. Enfin, je trouve ça génial. T'invites des potes comme ça, allez, hop, on éteint la lumière.
Ouais. Ça, non, c'est vrai que c'est chouette.
Je crois que ce sera ma prochaine idée pour ma soirée, donc si vous voulez venir
avec grand plaisir. Ah, ouais. Bon, les filles, je ne sais pas vous, mais alors moi, parler de tout ça, ça m'a donné légèrement faim. Ça vous dit qu'on fasse une petite pause ?
Petite pause goûter ?
Ouais. Allez, on revient tout de suite après avoir écouté Billy Paul, Your Song.
How wonderful life is when you're in the world, world, world. If I was alone on a rooftop, I'd kick off my shoes,
kick off my shoes, kick my shoes off.
I'll write a few verses, and then I get the blues. But the sun's big white. I'm doing beautiful. How wonderful it is when you're in the world, 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 world. If I sat up on a rooftop and kicked off my shoes,
kicked off my shoes, kicked my shoes off.
J'espère que vous êtes toujours là. On est toujours sur Radio Campus Bordeaux et je suis toujours avec Jade, Coralie et Samia.
Rebonjour.
Coralie,
oui.
Tu t'es spécialisée sur un sens en particulier, le toucher.
Oui.
Je te laisse la parole pour que tu nous en dises un peu plus.
Oui, tout à fait. Moi, je vais vous parler du massage. Donc, le massage dans tous ses états, le massage dans tous les sens. Sens oui, car ici, notre sens du toucher est directement concerné par ce sujet. Les filles, est-ce que vous êtes déjà fait masser ?
Oui.
Ouais, moi
toutes ?
Déjà fait masser.
Raconte-nous, Jeanne.
Même tout le corps, c'était génial. C'était dans un salon de massage. C'est Yves Rocher qui fait ça, pour pas dire le nom. Et c'est absolument divin. Il commence par le pied, les pieds, ils finissent par les épaules. Enfin, c'est génial. Tu sors de là, t'es dans un nuage, un coton. Enfin,
Moi, ouais. Perso, je me suis jamais fait masser dans un salon, mais... par une personne si.
Ah, je vois. Et justement, on va en parler d'ailleurs dans cette chronique. Et toi, Juliette,
ah oui, rajouté ? Moi, je me suis déjà fait masser un peu comme Jade dans un salon et c'est juste c'est incroyable.
Et bah, sachez que le massage, quel que soit notre âge, bah, effectivement, c'est un pur moment de bonheur. Bon pour le corps, bon pour l'esprit. Je vous invite à vous relaxer le temps de cette chronique qui fleure bon la zen attitude. Je disais donc, le massage se rapporte au toucher. Évidemment, pas de massage sans main huileuse, glissante sur votre corps. Ouh, on en a des frissons, oui on aime. Et d'ailleurs, le massage n'est pas seulement réservé qu'aux adultes, si vous voyez ce que je veux dire, mais à tous les âges de la vie. À l'occasion, j'ai pu m'entretenir avec Odile, praticienne certifiée de la Villa Rouge à Pessac. On l'écoute tout de suite.
Par exemple, au niveau de mes clients, je peux avoir aussi bien des clients, des hommes ou des femmes stressés par leur travail et qui viennent me voir régulièrement pour faire une pause, hein, lâcher prise et faire diminuer le stress. Et bien, c'est prouvé scientifiquement hein, que le massage diminue le cortisol du corps, donc ça diminue vraiment le stress. Après, je peux avoir des personnes qui sont pas forcément bien dans leur tête, plus ou moins déprimées. Et là, le massage, par le bien-être qu'elles vont ressentir au travers de leur corps, font du bien. Ça peut être des personnes aussi qui ont du mal avec leur corps. Ou ça peut être tout simplement, voilà, on a un petit moment à soi, un moment de détente. Un sens qui est très important pour l'être humain et qui est pourtant très peu développé, surtout dans notre culture en Occident. Contrairement à d'autres pays. Et c'est vrai que renouer un peu avec ce toucher, ça permet d'apporter énormément aux personnes, aussi bien à la personne massée qu'à la personne qui masse. Ma clientèle, c'est plutôt, je dirais, au niveau des âges 35-60. Après, j'ai quelques jeunes qui viennent me voir aussi de temps en temps, soit parce qu'ils sont stressés par un examen, qu'ils veulent venir se détendre avant un examen, soit c'est un cadeau que leur a offert voilà, un groupe de copains. Après, c'est une communication qui reste dans la famille. Hein. Et ado, par exemple, ça peut être, je sais pas moi, sur le canapé en train de regarder la télé, bah, tiens, je te masse les pieds, l'ado qui masse les pieds à son père, ou inversement, ou à sa mère. Vous voyez, c'est une communication aussi dans tout ce qui est dans les hôpitaux, où il y a des personnes âgées, ou dans les maisons de retraite. Je pense que enfin, c'est pas assez développé encore aujourd'hui, mais je pense que ça serait très intéressant d'avoir justement des personnes qui viennent effectuer des massages, voilà, des massages des mains, des massages des pieds. Sans pour autant avoir un massage complet à l'huile, mais ça permet voilà, de relier, de faire du bien à la personne et de relier des générations différentes. Voilà. Mais c'est, en général, les personnes âgées, c'est des personnes qui ne connaissent pas forcément le massage, mais qui se disent, bon, ça se développe en ce moment, et si je prenais enfin soin de moi? En gros, c'est ça, quoi. J'ai passé ma vie à m'occuper des autres, et puis, tiens, j'ai envie d'essayer, et en général, c'est énormément apprécié. C'est pas forcément sur une table pendant une heure avec la musique faux et la lumière éteinte, voilà. Ça peut être juste ça, histoire de retrouver cette sensation, les contacts entre peaux, entre personnes, et qui je pense peut apporter énormément, aussi bien pour les petits que pour les personnes âgées. Et se le permettra moi.
Après avoir écouté Odile, on comprend à quel point le massage est bénéfique pour notre santé. Et figurez-vous que même les nouveaux-nés ont le droit à leur massage. Odile le pratique aussi dans son salon.
Ce sont des ateliers bébés. Donc j'ai été formée sur un protocole bien défini pour les bébés. Moi, je ne touche pas les bébés. C'est les parents qui viennent avec leur enfant. Moi, je leur montre les gestes sur des poumons. Et eux reproduisent les gestes soit sur leur bébé s'il est disponible, soit sur un poupon. Et c'est sous forme de 3 ateliers. Il y a 3 ateliers à peu près à une semaine d'intervalle. Du coup, ils ont le temps durant la semaine de s'entraîner, de pratiquer chez eux avec leur enfant. Et après, ils reviennent, on revoit les gestes et puis on en apprend d'autres. Voilà, c'est une façon d'apporter une communication différente entre les parents et l'enfant. Déjà, ça permet au bébé de prendre conscience de son corps. On travaille beaucoup sur tout ce qui est les limites du corps, les contours du visage, masser les orteils un par un pour que voilà que le bébé prenne conscience de son corps. Ça permet aussi au bébé de se détendre. Souvent, les bébés, ils ont les jambes repliées, les bras repliés sur eux, ce qui est des positions normales hein, pour un bébé quand il sort du ventre de sa mère. Mais on apprend justement, voilà, à détendre les jambes, à pouvoir détendre les bras, et ça apporte du bien-être aussi à l'enfant.
Et pour rebondir sur ce que dit Odile, figurez-vous qu'une association a vu le jour, la FMB, Association France de Massage pour Bébés. Donc ils mettent en avant effectivement ces bienfaits du massage que cela apporterait à votre enfant. Il se sentirait plus en sécurité et rassuré dans son nouveau monde, le monde où justement l'enfant développe petit à petit son sens du toucher. Il faut rappeler que la peau, les filles, si vous ne le saviez pas, c'est le plus grand organe donc, de l'humain, la première et la plus importante connexion avec l'environnement. Comme on l'entend aussi, les personnes âgées ne sont pas en reste. En plus de leur apporter bien-être et relaxation, le massage peut être thérapeutique et donc soulager de nombreux maux, comme des douleurs articulaires ou musculaires. Un troisième point important que j'aimerais rajouter à cela, c'est celui qui permet à la personne de sortir de son quotidien et de sa solitude.
Ah, mais c'est vrai que ça, c'est hyper important. Enfin, aujourd'hui, l'isolement, et pas seulement chez les personnes âgées, augmente considérablement dans notre société. C'est un fléau. Hein.
Ouais, c'est vrai. Puis j'avais lu une étude sur les personnes âgées comme quoi... Enfin, il y a une différence entre quand on a 55 ans, on fait 4 déplacements par jour à peu près, et quand on a plus de 75 ans, donc à partir de 75 ans, les déplacements se limitent à moins de 3 par jour. Donc ça témoigne un peu l'isolement dont ils sont
victimes.
Incroyable. Ouais.
Donc voilà, comme quoi un petit massage, ça remonte toujours le moral, et on le rappelle, quel que soit notre âge. D'ailleurs, il est recommandé de se faire masser au moins une fois par mois, ce que je ne fais absolument pas. Et en vue des examens, je pense que le rendez-vous n'est pas très loin.
Et tout ça, ça me fait penser à une petite anecdote. C'est une école primaire en Saverne, donc en Alsace, qui initie les enfants au massage. C'est une pratique qui vient tout droit de Suède et qui fait même partie de leur cursus scolaire. Et passer par le massage et donc le toucher, comme tu le dis, sensibiliserait les enfants au respect de soi-même et au respect des autres.
Ouais, c'est vrai que dans notre monde virtuel omniprésent, le sens du toucher est de plus en plus important.
Effectivement.
Ouais, je suis bien d'accord avec toi, Samia, c'est vrai.
Pour avoir un peu de contact avec la réalité aussi.
Oui, mais j'ai parlé de massage, mais il y a aussi autre chose que le toucher qui détend et qui fait du bien.
Tu penses à quoi, Coralie ?
Je sais pas si vous connaissez l'ASMR.
Non, je déteste cette pratique.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est ça.
Mais tu sais pas ce que c'est que l'ASMR ?
Non, pas du tout. C'est quoi l'ASMR ? Je connais pas du tout cette pratique.
Toi, je sens que Coralie, tu es fan de cette pratique.
Non, même pas, mais c'est rigolo.
En gros, c'est on part du principe que les sons font du bien. Donc du coup, voilà, un peu comme Juliette, là. On murmure au micro, on essaie de faire des sons.
Oh
bizarres.
Là là, c'est hyper étrange, ça m'inquiète.
Et c'est censé détendre, hein.
Frère, c'est angoissant.
Bon, bah, excusez-nous, chers auditeurs. Je crois que nous sommes en train de les perdre.
Bon, non, on se reconcentre.
Ouais. Oui, et puis en parlant de sens qui font du bien, savez-vous que le son, au-delà de vous détendre au même titre que l'odorat, peut vous pousser à consommer ? En effet, si la vue, le toucher ou le goût font depuis longtemps partie intégrante du marketing produit, il existe ce qu'on appelle le marketing sensoriel. Mais aujourd'hui, je vais surtout vous parler du marketing olfactif, parce que l'odorat reste quand même un sens puissant, et vous en saurez plus par la suite.
Un sujet très très intéressant, mais pour ne perdre personne en cours de route, juste, tu peux nous dire en quoi consiste le marketing olfactif ?
Oui Juliette, le marketing olfactif consiste à utiliser des odeurs à des fins commerciales en appliquant aux produits, au point de vente ou à la consommation. Des entreprises sont d'ailleurs spécialisées dans ça. Elles s'occupent de parfumer des espaces de leurs clients qui peuvent aller d'une petite boutique à un supermarché ou encore à une chaîne d'hôtels.
Ah ouais, moi là directement je pense à un magasin de vêtements. Là encore je ne fais pas de placement de produits, mais Stradivarius, non mais qu'on se le dise, c'est l'horreur.
Je ne sais pas
si vous avez l'odeur de ce magasin en tête, mais genre juste ça te met la nausée. Tu sors de là, t'as la nausée clairement.
Et d'ailleurs c'est un moindre coût parce que ça coûte à peu près 50€ par mois. Et puis des technologies actuelles diffèrent en fonction de la taille de la pièce à parfumer. Pour des petits espaces par exemple, on va se contenter d'une bougie ou d'un spray. Mais quand ils sont plus grands, des technologies plus diffusives ont été élaborées.
Moi, en parlant de parfums et de lieux, ça me fait penser aux temples bénis d'encens, vous savez, un peu toutes ces ambiances parfumées, les souks aussi avec les épices, ou évidemment les massages avec les huiles.
On y revient toujours.
Oui, justement, le marketing olfactif est une pratique millénaire. D'après le Journal of Marketing, des expériences attestent que grâce à un parfum d'ambiance agréable répandu dans l'air d'une grande surface, le design de celle-ci peut être jugée 21% plus attrayante que s'il n'était pas présent. Et on voit aussi la chose de manière plus colorée et ça nous donne plus envie de l'acheter. Sachez que la plus célèbre odeur qu'on connaît tous d'ailleurs, c'est celle de la chocolatine.
Attends, comment ça, celle de la chocolatine ?
Là, un mythe s'effondre. Qu'est-ce que c'est cette...
Mais vous ne le savez pas que quand vous allez dans des boulangeries, l'odeur de chocolatine fraîchement sortie du four...
C'est une fausse odeur ?
Oui, c'est une fausse odeur.
Oh Jade.
Oh my God.
Mais vu que maintenant tout le monde connaît la supercherie, excepté vous visiblement, disons que l'odeur se vend moins. Et puis le revers de la médaille dans tout ça, c'est que la réglementation est beaucoup moins contraignante que pour les parfums pour soi, puisque les produits ne sont pas à appliquer sur la peau, donc un mauvais dosage peut être fatal. Finalement, les marques jouent un peu avec notre odorat. Et la dernière en date, je ne sais pas si vous l'avez vu, les filles, c'est Dope. Ils ont sorti un gel douche goût bonbon Haribo.
Ah ouais, non, mais ça me replonge directement dans mon enfance. Genre, les schtroumpfs à gogo.
Mais en parlant de Dope, ils ont fait encore plus fort. Hein. Je ne sais pas si c'est un troll ou si c'est vrai. Et je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ils auraient également commercialisé un gel douche à la raclette.
What?
Non mais je vous imaginez quelqu'un qui sent la raclette, genre au salon de massage, on vous étale de la raclette et tout.
Oh. Sérieusement, mais qui aurait envie de sentir du fromage fondu toute la journée? C'est
l'horreur.
Oui, justement, Dub joue bien sur le fait que l'odorat nous renvoie à nos souvenirs. Moi, mon odorat, personnellement, il me renvoie tout le temps à des souvenirs d'enfance. Pas vous?
Ouais, moi ça serait genre une odeur qui me rappelle direct mon enfant. Ça serait ma mère qui, lorsqu'il n'y avait plus rien à petit déjeuner à la maison, nous préparait des crêpes. Et du coup, genre, cette odeur le matin, ben, ça me rappelle directement quand j'étais
petite. Mais tu nous racontes toute ton enfance, là, ma petite Jade.
Je vais vous raconter mon enfance aussi, du coup, parce que ouais, du coup, c'est la poudre de mon arrière-grand-mère et son parfum un peu floral qui me rappelle mon enfance. Et d'ailleurs, en reparlant de raclette, je préfère la largement me retourner sur quelqu'un qui sent la fleur que le fromage. Comme quoi, l'odeur, ça joue sur nos émotions.
Ça, c'est une évidence.
Totalement,
hein.
Ton avis. Eh bien, sachez que la nostalgie peut être provoquée par de nombreuses associations. Les souvenirs peuvent revenir quand on regarde de vieilles photos ou quand on écoute une chanson, mais aussi lorsqu'on goûte un mets qui nous ramène à notre enfance. Les odeurs ont justement le même pouvoir. Elles peuvent nous transporter dans le temps et nous faire revivre les moments du passé.
Oui, comme toi, Jade, avec ton odeur de petite crêpe du matin.
Mais clairement, dès que je sens ça, c'est retour vers le futur. Hein.
Et la nostalgie est d'autant plus forte lorsqu'il s'agit d'un parfum oublié depuis longtemps.
Mais une petite question me vient, mais pourquoi le sens de l'odorat, bien plus que tous nos autres sens ?
Parce que la mémoire olfactive est décidément très puissante. La science nous a pu établir que nous possédons environ 1 000 000 de types de récepteurs olfactifs, c'est énorme, qui nous permettent de détecter plusieurs odeurs spécifiques et de les associer à un moment en particulier. Mais malheureusement, on n'est pas capable de toutes les nommer, ces odeurs. Il semble qu'on est capable de repérer...
C'est vrai, sans te couper, que En effet, c'est hyper difficile de décrire une odeur, non ?
Ouais, c'est vrai.
C'est...
Mais c'est surtout qu'il y a des odeurs indescriptibles. Ouais. Genre moi, par exemple, ça serait l'odeur de la pluie sur un trottoir chauffé par le soleil.
Ouais, en fait, il faut le sentir sur le moment
mais
pour
oui,
la décrire vraiment.
Pourtant, vous voyez toute l'odeur que je veux dire là, tu vois.
Ouais, ouais.
Toi, ça serait quoi
Bah moi, ce serait l'odeur. Vous savez quand vous êtes dans le jardin et qu'on vient de passer la tondeuse.
Ah oui, oui,
l'herbe
oui.
fraîche,
ouais, fraîchement coupée. Enfin ouais. Après, c'est difficile à décrire, mais bon, là encore, on sait très bien que c'est l'odeur de l'herbe.
Ouais, ouais. C'est ça, c'est ça.
Mais
d'ailleurs, comment écrit cette odeur, je ne sais pas. Moi, ça serait l'odeur du linge qui nous rappelle le printemps. Voilà, avec je sais pas la lessive,
ouais.
Les adoucissants.
Et juste pour revenir à ta question, Juliette, sur la puissance de l'odorat et pourquoi ce sens plus qu'un autre, l'odorat est le seul sens qui va directement jusqu'au cerveau, sans avoir besoin de détour, contrairement à la vue ou à l'ouïe. Très profond dans le cerveau, à l'abri des mots et des descriptions, les impressions sensorielles vont avoir davantage tendance à se mêler intimement à des souvenirs d'endroits ou à des moments.
Bon, et ben la prochaine fois que vous vous sentirez nostalgique à cause d'une bouffée de parfum, je pense qu'on saura tous pourquoi, hein. Sur ces quelques mots, je vous propose une nouvelle petite pause. On se retrouve juste après avoir écouté Terrence Parker, Something Here. I can't. troisième et déjà dernière partie de notre émission.
Oh.
Et oui, c'est bien triste. Depuis le début, nous avons fait appel à plusieurs de nos sens, comme le goût, le toucher, l'odorat, tous ces sens qui guident nos vies et nos émotions.
Et qui nous font sentir chaque jour un peu plus vivants.
Ouais, carrément. Et juste avant la pause musicale, Samia, tu nous évoquais les souvenirs de notre enfance. Et c'est vrai que quand on se remémore des souvenirs d'enfance, plusieurs sens se mélangent. J'imagine que ça vous est déjà arrivé de regarder la télévision et de tomber sur une série qui instinctivement vous rappelle cette période de la vie.
Ah ouais.
Ok, oui.
Alors, si je vous fais écouter ça. Ça ne vous rappelle rien, les filles ?
Ah, carrément, si, c'est
mais
le,
bien sûr.
C'est le générique de Charmed.
Exactement. Ouais. Et je suis sûre que vous n'avez pas pu passer à côté de cette info, les filles, mais la nouvelle génération va, elle aussi, avoir droit à ces trois sorcières.
Sérieux ? Mais trop bien.
Ouais, 12 ans après la fin de la série, l'univers plein de sorcellerie revient avec un reboot qui promet pas mal de changements, mais il restera quand même fidèle à la série originale. Après Piper, Phoebe et Paige Halliwell, c'est Mel, Macy et Maggie qui seront les héroïnes de ce reboot de Charmed et apprendront qu'elles sont donc des sorcières et bien évidemment leur vie basculera du jour au lendemain, patati patata. Enfin, tout ce que je peux vous dire, c'est que Maggie, Macy et Mel ne vont pas avoir les mêmes pouvoirs que les trois anciennes sorcières. Et à chaque fois qu'est annoncé un reboot d'une série, ça fait toujours polémique, mais vous, vous en pensez quoi ?
Bah moi, je suis bien curieuse de découvrir ce Charmed 2.0.
Et moi, bizarrement, je sens le gros flop arriver. Je trouve personnellement que les reboots de séries, c'est toujours la saison de trop, en fait, ou le reboot de trop. En fait, le reboot, c'est un reboot de trop, par définition.
Je sais pas, mais en tout cas, ce sera à vous de juger. Et vous pouvez déjà le faire, puisque la série est déjà diffusée aux États-Unis.
Bon, à voir, je suis un peu sceptique aussi.
Non, pas moi, moi, je veux voir ça, hein, quand même.
Et vous, les filles, il y a des séries qui vous rappellent votre enfance ?
Malcolm, direct.
Ah, moi, c'est Nounou d'enfer.
Moi, j'aimais bien Sabrina l'apprentie sorcière avec son petit chat noir trop drôle, trop mignon.
Ah oui, Salem !
Salem, là, il est trop drôle.
Bah, justement, je rebondis tout de suite sur Sabrina l'apprentie sorcière parce que là, c'est un spin-off qui est sorti un petit peu avant Halloween sur Netflix et CW. Mais bon, là, elle diffère de la série qu'on connaît tous. Hein. En fait, il s'agit d'une adaptation de la bande dessinée d'horreur The Chilling Adventure of Sabrina. Et l'histoire suit une jeune adolescente, mi-humaine, mi-sorcière, affrontée des forces obscures, donc assez loin de l'ambiance un peu teen show, bon enfant de la vieille sitcom des années 90.
Ah ouais, non mais là pour le coup, ça me donne direct plus envie de regarder, j'avoue. Ouais.
Moi perso, j'ai regardé cette série et j'ai adoré. Surtout quand, enfin c'était niveau période d'Halloween, donc du coup parfait avec les trucs flippants et en plus... Pour ceux qui ont déjà regardé la série, il y a un épisode spécial Noël qui sort le 14 ou le 15 décembre, je crois. Donc, ça peut...
Ah bah on a hâte de voir ça, alors.
Moi, niveau série, aujourd'hui, je suis complètement larguée. Alors, du coup, là, cette série, je n'irai pas du tout la regarder. Mais par contre, dès que j'entends un générique de série, alors là, j'ai tout plein de souvenirs qui remontent. Tu citais Malcolm tout à l'heure, Jade.
Ouais, bah...
C'est vrai que dès que j'entends les premières secondes de ce générique, j'ai tout de suite plein de souvenirs... Je pense que ça a marqué notre génération, Malcolm. Bah,
il est mythique, ouais, un peu, le générique de Malcolm. Justement, en parlant générique et musique, j'ai appris quelque chose qui m'a beaucoup étonnée.
Ah oui, dis-nous.
Bah, vous savez ce que c'est, la paralysie musicale ?
Je parle un peu pour les autres, mais qu'est-ce que c'est ?
Cette expression, bon, qui, je vous l'accorde, peut faire penser à une pathologie sévère, est utilisée pour désigner l'arrêt de l'évolution de nos goûts musicaux. Elle se manifeste quand les mélomanes arrêtent ou ralentissent leur découverte musicale et se mettent à préférer le confort de leur album préféré ou l'écoute d'un même genre.
Ah ouais, mais tu sors ça d'où, Juliette ?
C'est une étude réalisée par Deezer sur les habitudes d'écoute. On cesserait de s'intéresser à la découverte des nouvelles musiques avant d'avoir atteint nos 30 ans. C'est fou, non ?
Complètement.
Ouais, c'est fou, ouais, mais c'est surtout que moi, je trouve ça profondément triste. Enfin, ça veut dire qu'à partir de cet âge-là, tu t'ouvres plus culturellement, quoi. Bah... tu restes bloqué.
Bah, selon moi, perso, cette étude, je me retrouve, ouais, quand même un peu concernée. Pourtant, je suis très loin d'avoir 27 ans, mais moi aussi, je m'y reconnais là-dedans. J'ai tendance parfois à me cantonner qu'à un seul genre.
Mais ouais, mais enfin, comme tu dis très justement, t'as pas 27 ans encore, Samia, et je pense que t'as pas encore le recul nécessaire pour savoir si oui ou non tes goûts musicaux se sont arrêtés aujourd'hui. Qui sait, peut-être que
demain, ça changera.
Ouais, ouais. La semaine prochaine, tu peux redécouvrir un nouveau groupe de musique. Enfin, moi, je sais personnellement que je suis abonnée à une plateforme musicale qui, toutes les semaines, me propose de nouvelles nouvelle musique. Et grâce à ça, en fait, c'est absolument génial parce que je découvre des sons que j'écoute pas du tout normalement. Et justement, au niveau ouverture musicale, c'est hyper intéressant.
Ouais, mais ça, c'est pas un peu piégeux, ce genre d'application avec les algorithmes et tout. Ils te proposent uniquement ce qu'ils attendent de toi, enfin, des choses que tu as l'habitude d'écouter. Donc finalement, ça.
Ouais, c'est les recommandations, ouais, un peu les sur recommandations, YouTube. Ouais.
Oui, mais ça n'empêche que ça continue à te faire découvrir d'autres choses. Donc mm-hmm. c'est pas
ouais,
mal.
Ouais, mais j'entends ce que tu veux dire, ça. Hein. C'est que c'est un peu un cercle ouais. fermé dans le sens où si j'écoute ce style de musique, on va m'orienter quand même vers le même genre.
Ouais,
c'est
exactement,
ça
ouais. ouais, c'est dommage.
C'était pour parler de mon expérience, moi qui vais bientôt sur mes 26 ans. Mais je me sens un peu concernée aussi par cette étude, donc un peu comme Samia.
Toi aussi, tu te sens cantonnée dans un même style
Ouais, mais après, c'est des genres et des musiques que tu as depuis une dizaine d'années aussi, donc c'est bien ancré et je pense que ça peut changer, on sait jamais.
Enfin, en tout cas, passer 27 ans et 3 mois, parce qu'en plus, c'est très précis, donc voilà, on se contenterait d'écouter les mêmes titres qu'on connaît déjà et le même style de musique, et en particulier le rock, l'électro et le rap. Et au total, 65% des personnes interrogées estiment se sentir bloquées dans un même genre.
Ouais, comme l'a dit Coralie, clairement.
Ouais. Ouais. Et à l'inverse, quelque chose d'un peu fou, l'étude pointe aussi du doigt l'âge de découverte musicale, c'est-à-dire l'âge à laquelle les Français joueraient les explorateurs d'horizons sonores. Et étrangement, en France, c'est à peine un an avant le déclin, c'est-à-dire 26 ans et 4 mois, ah. que l'on est le plus avide de partir à l'aventure vers de nouveaux territoires musicaux. Donc c'est un peu fou. Mais parce
ça,
que
j'ai
bah,
un peu du mal
à moi l'aventure bientôt.
Et c'est surtout contradictoire, un petit peu comme étude.
Ouais,
à 27 ans, t'es bloqué, mais attention, un an avant, tu découvres tous les styles.
Un an avant, c'est la folie. Allez, on découvre.
C'est une étude un peu particulière, je vous l'accorde, les filles.
Mais attends, 27 ans et 3 mois, ça y est, t'arrêtes tout, t'es bloqué.
Mais par contre, 26 ans et 4 mois, c'est la folie. Et là, tu découvres de nouveaux styles, de nouvelles chansons,
moi,
de nouveaux horizons.
Moi, j'ai l'impression que la découverte musicale se fait sur le long terme, en fait. Ça se fait pas qu'en un an spécialement. Enfin, je sais pas, j'ai du mal à adhérer.
Ouais, c'est ça. C'est quand tu deviens adolescent, tu t'ouvres un peu, ouais. t'apprends des nouvelles choses avec tes amis, etc. Tu découvrais des nouvelles musiques, des nouveaux genres.
Je suis d'accord avec toi, Coralie.
Bon, en tout cas, au final, peu importe les goûts musicaux qu'on a aujourd'hui, je vous ai concocté une petite surprise pour finir l'émission en beauté.
On a hâte.
On a beaucoup parlé des souvenirs de notre enfance, que ce soit par la vue ou l'odorat. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, l'ouïe est également un sens qui renvoie énormément aux souvenirs. Avant de se quitter, petit blind test spécial enfance.
Yeah.
La musique.
Première musique, je pense que ça va aller très très vite.
Ozan, Nouma Noumaïe.
Nouma Noumaïe.
Alors, c'est pas le titre exact.
Oh là là, non mais si c'est le titre exact.
Dragonstein Intel.
Ouais.
Et oui.
Non, mais d'ailleurs, en plus de faire du coréen, avec du roumain aussi.
En fait, j'ai une anecdote assez particulière sur cette chanson. C'est que j'ai déjà fait de la radio. Et j'ai présenté cette musique lors de ma première radio.
Oh,
voilà.
Génial. Elle ne nous dit pas tout.
Bon, j'accorde un point à Coralie et un point à Jade pour l'artiste.
Ah. Super.
Deuxième musique.
Britney Spears.
Le titre.
One more time. Baby, one more time.
Bien.
Bravo, Samia.
Pas mal. Un point pour Samia et allez, deux points pour Coralie, un point pour Jade.
Oh, merci.
Prochaine musique, on change de style.
Tengo la camisa
negra
de
Javier
Juanes.
Bien joué, Jade.
Moi, c'est là en mode
championne.
Et elle revient dans le game.
Tu passes à 3 points.
Est-ce que si on chante, on a des points bonus?
Non, Coralie.
Oh, c'est dommage pour nos auditeurs.
Ah oui, parce que ce qu'il faut savoir, chers auditeurs, c'est que Coralie est une grande adepte du karaoké. En coréen, voilà.
J'étais pas obligée de préciser ça.
Allez, encore une ou deux musiques. Ça peut aller très vite aussi.
Oh, Shakira
Whenever.
Whatever.
Bien joué, bien joué, bien joué.
Bon, du coup, t'as 0,5, moi j'ai 0,5, comme ça.
Ou un partout.
Ou un partout.
Ça me va aussi.
Bon, si on fait un petit récapitulatif des points, Jade, 5 points.
0,5.
Samia, non, 3 points. Et 3 Coralie, points. 2 points.
Non, j'ai 3 points. 3
points
tout aussi.
Bon, 3 points. Ça va. Allez, dernière musique. Peut-être un peu plus compliquée, mais moi, en tout cas, j'adorais cette musique quand j'étais petite.
Ah, Nelly Furtado.
Bien joué.
Wow. Ouais. C'est avec Timbaland, mais.
Ouais, c'est celle-là. Ah, je me souviendrai plus du titre. Mais
personne,
tu peux la laisser.
Tu peux la laisser.
Vas-y, je me souviens plus, moi non plus.
Say it right.
Ah, ok. Ouais. J'aurais pas trouvé, je l'avoue.
Bon, allez, et vraiment, finalement,
la dernière.
Bonus. J'hésite. Allez.
Tout à l'heure, je roulais sur mon scooter.
Garçon, si t'enlèves de la CD, ça fait garçon. Je pense que le titre est un peu plus court, mais.
Je sais plus la.
Ah, la chanteuse,
Coxie.
Ouais.
Oh, waouh!
Trop bien!
Je pense qu'on est sur une victoire de Jade pour ce blind test.
Félicitations, Jade. Qu'est-ce qu'on gagne? Enfin, qu'est-ce que
j'ai gagné? Qu'est-ce que j'ai gagné?
Un massage.
Un massage.
Je pense que t'as le droit de gagner un massage.
Avec grand plaisir.
Super. Tant que Coralie ne me fait pas de la ASMR, c'est parfait.
En tout cas, merci les filles, vous avez vraiment été super. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés. Nous espérons que cette émission vous aura vraiment plu, parce que nous, on a adoré la faire. Vous pourrez d'ailleurs très rapidement retrouver l'intégralité de l'émission en podcast via nos réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. On va se gêner. Ciao.
Salut.